Bonsoir, ouvrons le temps du débat consacré aujourd'hui aux radicalités féministes. Quelques mots d'abord sur ce nouveau rendez-vous qui s'inscrit, comme le suggère son titre, son horaire et son générique, dans la continuité de l'émission proposée du lundi au vendredi à 18h20 par Emmanuel Laurentin et son équipe. À la quotidienne viendra donc désormais s'ajouter chaque samedi un supplément magazine consacré à un sujet d'actualité. Le temps du débat, c'est évidemment celui que nous allons prendre, 50 minutes pour un exercice rendu difficile à l'ère du clash, mais d'autant plus essentiel que nous souffrons de la difficulté à confronter les idées sans posture ni caricature. Pour cela, les essais, leurs auteurs et autrices trouveront ici une place toute particulière. Je tenterai ainsi de continuer à faire connaître, comme j'ai eu le bonheur de le faire pendant 3 saisons dans Avis Critique, l'incroyable richesse de la production d'idées et de défendre une conviction. Les sciences sociales nous informent sur l'actualité.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Bon, je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il n'y a pas eu un groupe originel qui a décidé de s'appeler MLF. Il y a eu plusieurs groupes, dont certains constitués dès avant mai 68. Et ces groupes, qui étaient des tout petits groupes jusqu'il y a 2 ans, et qui ne se connaissaient pas et qui ne s'étaient pas rencontrés, fonctionnaient d'une façon étrange, tous exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient sur des bases radicales, qui n'étaient pas d'amélioration de ce qu'on appelle la condition féminine, mais de remise en question radicale de tout ce que sont les femmes, de tout ce que sont les hommes, et qui étaient dédiés à l'action directe et avec la même opposition à la politique traditionnelle et aux groupes politiques mâles, c'est-à-dire masculins.
Le 26 août 1970, 9 femmes, dont Christine Delphi, qu'on vient d'entendre, tenter de déposer sous l'Arc de Triomphe à Paris une gerbe pour celle qui est encore plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. C'est l'événement fondateur du mouvement de libération des femmes, le MLF, même si cet acte de naissance est discuté. 50 ans plus tard, on parle de plus en plus d'un néo-féminisme qui s'inscrit dans le sillage de MeToo et vient à la fois renouveler les modes d'intervention dans l'espace public et les revendications pour faire progresser les droits et les libertés des femmes. On pourrait insister sur l'évolution que représente l'occupation de l'espace public par les slogans des colleuses, la parole libérée d'une Adèle Haenel, l'émergence de concepts comme celui de féminicide ou d'intersectionnalité. On pourrait tout aussi bien s'étonner des similitudes entre les époques, à commencer par les critiques faites aux féministes jugées trop radicales, accusées d'être des ayatollahs, hystériques, de faire régner la terreur, de réactiver les pires heures du maccartisme, et j'en passe. Cette semaine, dans Le Monde, la chercheuse et militante féministe Christine Delphi donc rappelait que cette injonction à être bien polie n'est pas nouvelle, comme ne sont pas nouvelles d'ailleurs les tensions entre les féministes sur la meilleure façon d'atteindre un but qui reste commun, s'attaquer à la domination masculine. Qui a peur des radicalités féministes? C'est la question que nous allons débattre ce soir dans le temps du débat du samedi avec 3 invités. Liliane Candel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et vous avez co-dirigé le Centre d'études et de recherche féministe de l'Université Paris 7, donc de Denis Diderot. Vous avez rejoint le mouvement de libération des femmes dès la fin des années, de l'année 70 plutôt, juste après, et à cause de cette action de l'Arc de Triomphe dont Christine Delphi vient de parler dans cet archive qu'on a diffusé. En face de vous, l'historienne Bibia Pavard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, et vous êtes la co-autrice de Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, un ouvrage qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Et enfin, 3e invité, Zoé Royaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes. Alors, Liliane Candel, vous n'étiez pas à l'Arc de Triomphe ce jour-là, ce jour d'août 1970, mais vous m'avez dit que c'était malgré tout un événement avant l'émission, c'était l'événement qui avait déclenché votre engagement au sein du MLF. Pourquoi est-ce que ça vous a incité à vous engager dans ce combat féministe?
Écoutez, ça ne m'a pas incité, ça m'a littéralement aspiré. Bizarrement, il faudrait retrouver la page du Monde. Je me souviens très bien qu'il y avait une grande page où figurait le dernier article consacrée à ce qui se passait du côté des femmes aux États-Unis. Et tout à fait en bas, un petit entrefilet disant quelques jeunes femmes sont allées déposer une gerbe à la femme inconnue du soldat. Enfin, et ce petit article qui ne disait pas grand-chose a déclenché chez moi un éclat de rire absolument faramineux. J'ai trouvé ça intelligent. Quand même, mai 68, c'était 2 ans plus tôt, on commençait à traîner un peu, à déprimer dans les groupes gauchistes que je connaissais. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir. Et j'y suis allée, et l'éclat de rire initial ne s'est quasiment pas tari pendant plusieurs années.
Un mouvement joyeux, donc, que celui de MLF à cette époque-là.
Mais joyeux, et plus que ça, enfin, il faut faire une thèse un jour sur la fonction révolutionnaire du rire.
Bah, Bibia Pavard, vous allez sans doute en diriger des thèses d'histoire. Peut-être vous aurez l'occasion de donner ce sujet à un ou une de vos thésardes. Oui, parce que Liliane Candel le rappelait, c'est un événement, celui du 26 août 1970, qui a lieu à Paris. Quelques femmes, donc 9, qui vont déposer ces fleurs, mais en écho à des manifestations, elles bien plus nombreuses, aux États-Unis à cette époque. Et on retrouve donc déjà ce parallèle, on va dire, entre les deux côtés de l'Atlantique, dans un mouvement qui est ce mouvement féministe.
Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que la médiatisation du féminisme à ce moment-là, elle est centrée d'abord sur les États-Unis et ensuite on parle du mouvement de libération des femmes en France en référence
de la femme à l'époque.
Oui, de la femme, c'est vrai d'abord en référence au Women's Liberation Movement des États-Unis. Et donc le 26 août 70 n'est pas choisi au hasard comme date puisque ce même jour les féministes américaines appellent à une grève des femmes pour commémorer donc les 50 ans de l'obtention du droit de vote en 1920. Il y a une très grande manifestation à New York, donc une volonté de s'inscrire dans cette dimension mondiale. Il y a des Américaines en France, il y a des Françaises qui rentrent des États-Unis, donc on voit déjà à l'œuvre ces formes de circulation transnationale qui sont essentielles pour comprendre les mobilisations féministes, et cela depuis le 19e siècle.
Depuis le 19e siècle et même avant, puisque votre ouvrage commence à 1789, mais le mot féminisme, en tout cas, lui, naît à la fin du 19e siècle, Bibia Pavard. Juste un mot, si vous le voulez bien, sur la façon dont a été reçu cet événement fondateur du mouvement de libération des femmes. Est-ce que vous vous souvenez, vous aussi, Liliane Candel, peut-être, des réactions que ça a suscité?
Disons que c'est vrai que la notion d'un entrefilet est caractéristique, c'est-à-dire ce sont des petites informations qui passent au début, elles sont souvent critiques, ironiques, mais ça permet quand même de faire connaître quelque chose qui est en train d'émerger, et cette médiatisation est essentielle pour faire venir de nouvelles personnes, comme on l'a vu.
C'est oui, mais les nouvelles personnes en question, elles avaient commencé à se réunir, c'est très bien dit au début de l'émission. Il y avait vraiment des petits champignons qui poussaient un peu partout, qui ne se connaissaient pas, qui se croyaient chacun seul au monde, dans son coin isolé, objet de rigolade, de critique, et qui tout à coup, avec la parution de l'article de Monique Wittig dans l'Idiot International, se disent: mais on est plusieurs. Et donc, à partir de là, ces femmes essayent de prendre contact les unes avec les autres. C'est très, très bien expliqué à la fois sur le blog Rebelle, dont je vous donnerai le lien, ou aussi sur Bobine Féministe. Il y a vraiment la préhistoire de tout ça. C'est réellement, on voit naître un mouvement qui s'ignore pendant tout un temps. Et tout à coup, la mayonnaise prend. Et il y a une AG rue de Vaugirard, où tout à coup ces femmes qui avaient l'habitude d'être 5 ou 6 ou 10 au maximum se retrouvent 50 et qui n'en reviennent pas.
Un mouvement donc qui se structure et qui se constitue autour de questions politiques, mais aussi de questions de droits. Zoé Royaux, c'est vrai que à cette époque et à ce moment-là, et le mouvement féministe, c'est aussi un mouvement de revendication de droits. Vous, en tant qu'avocate pénaliste qui êtes engagée sur ces questions-là, puisque je le rappelle, vous êtes la porte-parole de la Fondation des Femmes. Comment est-ce que cette histoire, quelle place tient cette histoire pour vous dans votre engagement?
Bah, c'est fondateur. Enfin, vous avez raison. Et l'importance de la politique et l'importance de la loi aussi. Et après, parce qu'il y a août 70, puis ensuite, on le sait, on en a parlé dernièrement, les procès menés par Gisèle Halimi et la façon dont elle les mène pour faire des procès à la loi, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que le MLF, c'est aussi de pouvoir avoir ce droit à l'avortement, de disposer de son corps. Et ensuite, c'est le relais qui est pris avec les militantes féministes qui sont présentes à ces procès-là, le relais qui est pris, qui est le procès de la loi. Donc, c'est important parce que la loi, c'est une photographie des valeurs d'une société, de où on en est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on sanctionne, qu'est-ce qui est autorisé ou pas. Et ça dit beaucoup de choses, des mœurs. Alors parfois, il faut pousser la loi à évoluer, c'est ce qu'a fait Gisèle Halimi avec le procès de Bobigny sur l'avortement, Aix-en-Provence en 78 sur le viol. Alors on est aujourd'hui, évidemment, les droits, il y a des droits acquis, mais on est encore, la justice n'est pas tout à fait à la hauteur du courage des victimes, malheureusement. Mais en tout cas, ça a fait évoluer largement les droits des unes et des autres à partir de là, en fait. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on se rend compte que tout d'un coup, il y a un mouvement qui est lancé, et on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire que là, ce que fait par exemple Gisèle Halimi, on en a beaucoup parlé au moment de sa mort le 28 juillet, mais ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est de faire rentrer la société au sein même des audiences, en considérant que maintenant, il faut que tout le monde soit au courant de la façon dont ça se passe, la façon dont les femmes sont traitées, de ce que la loi fait ou ne fait pas. Et elle oblige la société et la loi à changer. Elles obligent. Je trouve ça assez formidable.
Est-ce que, Liliane Candel, la question des modes d'action, de la radicalité, vous avez parlé des milieux gauchistes que vous fréquentiez à l'époque, est-ce que ça se pose...
Ça se pose tout de suite. À propos de ce que vous dites, il faut bien préciser que Gisèle Halimi était totalement portée par ce mouvement, mais qu'une bonne partie de ce mouvement critiquait très sérieusement ce qu'elle faisait sur le procès de Bobigny. Il y a eu un clash entre les filles du MLF et les femmes de Choisir, puisque les filles du MLF refusaient absolument l'idée de donner la parole à des vedettes. Elles trouvaient que c'était encore une forme de récupération et demandaient qu'on donne la parole aux femmes avortées, etc. Il y a eu un clash, il y a eu un départ et des portes claquées. Simone de Beauvoir a hésité entre les unes et les autres. Et c'est Gisèle Halimi qui avait raison, bien entendu. Mais à l'époque, il ne fallait pas dire à des jeunes femmes qui avaient entre 20 et 26 ans à peu près que peut-être il fallait prendre des modes d'action, pas forcément réformistes, mais composés avec la société. Non. Et enfin, il y a quand même eu des slogans extraordinaires, à savoir « nous sommes hors la loi ».
Ouais,
et c'est aussi ce mouvement qui se voulait hors la loi qui a porté
bien sûr. La possibilité. Et c'est le procès de la loi, et c'est ce qu'elle dit. On n'est pas en train de juger des femmes prévenues ou accusées en fonction du procès auquel on a affaire, mais on juge la loi. Là, et c'est ce qu'elle fait. Et effectivement, c'était forcément c'est polémique, mais en même temps, faire venir des gens connus, ça met un coup de pression parce que les médias, c'est ça qui les intéresse en réalité aussi. Et ça mettait aussi un coup de pression.
Évidemment, raison.
Évidemment, et un coup de pression sur les magistrats aussi pour se rendre compte que tout d'un coup, les caméras sont sur eux et la société est avec eux là. Elle les regarde prendre une décision.
Bibia Pavard, dans « Ne nous libérez pas, on s'en charge », dès l'introduction, dès la préface même, vous insistez sur l'importance, j'allais dire des dissensions, en tout cas des discussions, des débats au sein des féministes, et donc il faut
tout
dire au pluriel, évidemment, et au féminin, bien entendu. Ce que vient de dire et de rappeler Liliane Candel, qui insiste hein, tout le temps des débats, ça porte aussi sur la question de la radicalité, de quelle forme ça doit prendre. Faut-il composer avec la société? Faut-il aller plus loin? Parce que le féminisme est un mouvement, j'allais dire, révolutionnaire aussi. Il n'y a pas là.
Tout à fait. C'est vrai qu'on a voulu vraiment mettre ce titre au pluriel, une histoire des féminismes, parce que on a tendance à réduire le féminisme à une idée, une idéologie, alors que ce qui frappe sur le long terme, c'est justement cette diversité à la fois dans les revendications, dans les idées, dans les stratégies. Et c'est très bien d'avoir rappelé que Gisèle Halimi ne faisait pas l'unanimité dans les années 70, parce que voilà, aujourd'hui évidemment, on se rappelle l'œuvre très grande qu'elle a portée, mais en même temps, voilà, elle était elle aussi inscrite dans ces débats et dans ces oppositions. Et donc j'ai oublié votre question.
Bah non, c'est la question justement de l'importance de rappeler ces débats. C'est pour faire cet aller-retour, parce que vous proposez un essai, de, comme vous dites, de socio-histoire, c'est-à-dire qui fait l'aller-retour entre le présent et le passé. Il semble particulièrement important aujourd'hui, 50 ans après l'événement, de faire ces allers-retours. C'est évidemment la question du rôle et de la place de la radicalité. Voilà, ce qui est, Gisèle Halimi, qui était considérée comme très radicale dans les années 70, à sa mort, vous l'avez rappelé, Zoé Royau, fin juillet dernier, on disait plutôt qu'elle avait plutôt cette image d'une féministe, pas si radicale, celle qu'on aimerait voir aujourd'hui.
Alors, effectivement, le terme de radicalité et de radical est intéressant, parce que les mobilisations féministes en elles-mêmes visent à agir vraiment sur la société de façon profonde. Donc, elles sont intrinsèquement radicales, puisqu'elles visent à changer totalement l'ordre établi. Néanmoins, ce terme, il peut être parfois utilisé positivement. Certaines se revendiquent d'une radicalité justement pour entériner cet aspect révolutionnaire, et ça peut aussi être pris au contraire comme une façon de les insulter, on va dire, hein. Et donc le terme de radicalité, de radical, c'est pris négativement par un certain nombre de mouvements aussi anti-féministes qui visent à remettre en cause ces actions qui sont profondément déstabilisatrice pour la société.
Vous voulez réagir, oui, moi,
je pense qu'en réalité, on était d'assez bonnes stratèges. Je me souviens d'une discussion avec Monique Wittig, un jour où on commençait à entendre partout le fameux « je ne suis pas féministe, je ne suis pas comme ces folles furieuses qui, Dieu sait ce qu'on avait encore fait, mais... » Et Monique m'expliquait, elle me disait, tu comprends, il faut des folles furieuses à une extrême des opinions pour que toutes les autres femmes puissent dire, nous on n'est pas comme ça, mais tout de même elles n'ont peut-être pas tort.
Monique Wittig, donc rappelons-le, hein, écrivaine, militante, féministe, qui beaucoup redécouvert d'ailleurs ces derniers temps, qui avait un peu disparu de la mémoire collective et dont on parle de plus en plus. Alors, si on continue à faire ces bons dans le temps d'hier à aujourd'hui, il faut peut-être parler du fait qu'aujourd'hui, Zoé Royau, il y a un certain nombre de droits en tout cas encore à conquérir, vous l'avez rappelé, et qui suscite aussi des questions de position. Je pense à la question de la prostitution, par exemple, qui est un sujet que vous connaissez bien, la question du voile, la question de la GPA. Ce sont des sujets qui, aujourd'hui, sont des questions de droit, sont des questions portées par les féministes, mais qui suscitent des affrontements.
Oui, mais c'est intéressant parce que souvent, quand on parle des féministes, on accentue sur ce qui peut les diviser. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, la laïcité avec en sous-titre le voile, la prostitution, traite des êtres humains ou pas. Mais il y a beaucoup de choses qui rassemblent les féministes. Beaucoup de choses. L'égalité salariale, de maintenir et de poursuivre la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ça, c'est assez fondamental. Donc après, qu'il puisse y avoir des opinions différentes, dont acte, le féminisme, c'est aussi un combat politique pour l'égalité. Et ça, on est toutes d'accord. Après, qu'il puisse y avoir des féministes essentialistes ou plus matérialistes, universalistes, c'est bien, mais je trouve qu'on se concentre aussi, mais je comprends votre question et vous avez raison de la poser, hein, mais je trouve qu'on se concentre beaucoup sur ce qui les divise. Et dans un premier temps, on disait des féministes qu'elles étaient hystériques, mal baisées, pardon, voire éventuellement... Ouais, par qui exactement? Voire lesbienne, en tout cas, qu'elle n'aimait pas les hommes, ce qu'on continue d'ailleurs à dire aujourd'hui. Et là, on dit aussi que de toute façon, elles sont très divisées parce qu'elles n'arrivent pas à s'organiser et à se mettre d'accord. En réalité, l'objectif est commun. Après, effectivement, il peut y avoir des divergences, notamment sur la prostitution. Alors, est-ce que on s'en tient aujourd'hui à ce que peut nous dire la loi, et notamment en matière de violence sexuelle, la loi n'est pas si mal faite en France. Elle est juste très mal appliquée parce qu'il y a une résistance des mentalités et de la morale. Et qu'on attend des femmes, et ça c'est de tout temps, qu'elles soient parfaites. Et quand elles sont victimes, il faut qu'elles soient encore plus parfaites que ne l'est la femme lambda, si je puis dire. Donc ça, il y a une exigence encore aujourd'hui, une résistance de la justice malgré la loi. Donc comme quoi, même si les combats ne sont pas les mêmes qu'hier, ils sont encore aujourd'hui vraiment d'actualité, je pense.
Justement, Bibia Pavard, ces combats qui ne sont pas les mêmes qu'hier, comment est-ce que vous définiriez cette évolution? Qu'est-ce que vous avez remarqué en travaillant sur ces plus de deux siècles, de 1789 à nos jours? Mais restons quand même, si vous le voulez bien, dans les 50 dernières années, ce sera plus simple. Quelles évolutions avez-vous pu constater? On a pu dire, j'ai pu lire ici ou là, qu'on était passé d'une défense des droits à une défense des sensibilités des femmes, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Je trouve que c'est compliqué de voir un sens de l'histoire, une évolution qui serait linéaire, parce que ce que l'on remarque lorsqu'on travaille sur le temps long, justement, c'est à quel point les mobilisations féministes s'inscrivent dans leur époque et dans les débats politiques qui les portent. Et donc, évidemment, les mobilisations autour du mouvement de libération des femmes et plus globalement du mouvement des femmes des années 70, elles sont portées par le contexte des années 68 et donc par cette mouvance révolutionnaire de l'époque, et aujourd'hui on est dans un tout autre contexte politique et donc ça ne pose pas de la même façon. Donc plutôt que de voir une évolution, et j'entends beaucoup cette idée qu'on est passé de quelque chose à autre chose, en réalité ce que l'on voit c'est une critique de la démocratie telle qu'elle s'exprime à chaque époque. Et donc les mobilisations féministes, les mouvements féministes visent aussi à une plus grande démocratisation des sociétés dans voilà le contexte où elles s'inscrivent.
Liliane Candel, vous avez signé dans la revue Cité un article, Extension du domaine de l'offense, mouvement féministe entre parenthèses d'humeur. Et dans cet article, vous regrettiez le fait qu'on avait substitué à la répression, à la censure, aux arguments d'autorité et de pouvoir, ceux de la souffrance, de la faiblesse et du retournement victimaire. Vous regrettez donc une forme d'évolution. Est-ce que vous voulez développer un peu sur cette idée ?
Écoutez, moi je ne sais pas si on peut parler d'évolution. Je suis tout à fait d'accord avec Bibia. C'est évident que les mouvements féministes sont pris dans leur époque. Et ce que je regrette de temps en temps chez les jeunes générations féministes, c'est que quand je les entends répéter ce que nous disions il y a 50 ans, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas compris qu'on avait un peu changé d'époque. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a toute une partie du mouvement féministe qui est pris dans la cancel culture, par exemple la culture de l'annulation, qui est dans l'air du temps.
Je préférerais personnellement que les féministes ne
tombent pas complètement là-dedans. En France, c'est un tout petit peu moins visible, mais ça commence aussi. Aux États-Unis, c'est partout. Enfin, j'ai des amis universitaires aux États-Unis. Donc oui, les féministes sont à la fois, le féminisme continue, des féminismes continuent, mais ils sont aussi très représentatifs de leur époque.
Excusez-moi d'insister malgré tout sur à la fois cette évolution et peut-être les critiques qui peuvent être portées à ce qu'on appelle une forme de néo-féminisme. On a pu lire l'écrivaine Mazarine Pinjot, l'avocate Noëlle Lenoir, regretter une évolution vers une forme de police des mœurs, une morale adossée à la haine, une dérive du combat féministe vers une radicalité identitaire. Comment est-ce que vous recevez, vous, ces critiques? Alors, je rappelle que vous êtes avocate, pénaliste, mais vous êtes aussi proche en tant que porte-parole de la Fondation des Femmes, des mouvements et de l'évolution du combat féministe. Quel regard vous portez-vous sur ce débat ?
Je vois beaucoup qu'à travers ça, ce qu'on dénonce, c'est le tribunal médiatique, en considérant, et c'est les critiques qui ont été faites au mouvement MeToo, balance ton porc, on considère que tout d'un coup, on donne un ou plusieurs hommes en pâture dans les médias, et tout d'un coup, tout le monde lui tombe dessus, et on arrive à cette cancel culture. J'entends ça, mais je pense que c'est parce que la justice ne prend pas sa place. Si le tribunal judiciaire prenait sa place, les victimes n'auraient pas besoin de s'adresser aux médias pour dénoncer celui qui les a agressées et que la société protège aujourd'hui. Donc je suis désolée que Mazarine Pinjot s'ennuie en lisant la presse actuellement, et notamment ces articles qui concernent ces femmes qui prennent cette parole-là, ou ces militantes écologistes qui ont le courage de pouvoir dire qu'il y a un truc qui va pas peut-être, et qu'il faudrait qu'on s'en saisisse. Mais ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui la justice prenait son office, elle peut le faire. Elle l'a fait pour Matzneff sans qu'il y ait de plainte déposée, elle l'a fait avec Adèle Haenel sans qu'elle ne dépose de plainte. Et bizarrement, et c'est pour ça qu'on tourne toujours autour de ce sujet, elle ne fait pas par exemple pour Polanski. Donc on peut s'interroger et on peut se dire que dans ces cas-là, les médias évidemment s'en saisissent, parce que les victimes n'ont pas confiance aujourd'hui en la justice. L'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, disait il faut que les victimes aient confiance en la justice. Mais regardons les chiffres, regardons comment la façon dont les plaintes sont traitées, dont les viols dénoncés ne sont pas condamnés. Je ne suis pas pour une répression totale, je suis pour que la justice passe et que chacun puisse s'exprimer dans l'enceinte judiciaire. Et peut-être que dans ces cas-là, les médias reprendraient leur place de médias et non pas de tribunal. Donc je pense que parfois, malheureusement, n'a pas complètement le choix, et qu'il faut pouvoir s'interroger, et que l'institution judiciaire devrait se remettre en question.
Écoutez, nous interrogions énormément sur l'institution judiciaire, ô combien. D'abord, il y a celle qui n'en voulait pas, puis celle qui
voulait. Bien sûr,
ouais. je n'ai aucun souvenir que dans les années 70, on n'ait jamais dénoncé publiquement une personne qui n'était pas par ailleurs déjà objet d'une plainte en justice. Mmh. Et ce qui me fait vraiment peur dans ce qui se passe en ce moment, c'est de voir effectivement des phénomènes de lynchage médiatique, mais qui sont où il n'y a pas, et comme avocate vous devez l'entendre, il n'y a aucune proportionnalité entre le délit commis, entre le fait de dire une goujaterie un soir d'ébriété à une femme, et de se retrouver 3 ans après, sans travail, sans appartement, et de voir ses propres enfants attaqués au lycée.
Bien sûr, j'entends parfaitement ce que vous dites, et malheureusement, il y a toujours évidemment des conséquences qui peuvent être dramatiques pour certains, je l'entends parfaitement. Là, ce qui était dénoncé, c'était pas forcément des délits ou une goujaterie, c'était plutôt des faits d'agression sexuelle ou de viol qui sont dénoncés. Matzneff, c'est pas de la goujaterie, Polanski, c'est pas de la goujaterie, Girard, c'est pas de la goujaterie, on parle pas d'un déjeuner avec Matzneff ou Woody Allen, hein. On parle des faits qui sont dénoncés par cet homme aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas, je dis juste que ce n'est pas aux médias de trancher, c'est à la justice de le faire, et que la justice ait le courage de le faire. Et je trouve ça formidable que les femmes aujourd'hui, alors évidemment, il y a forcément des conséquences qui peuvent être un peu dures et disproportionnées, mais quand on dit que la honte change de camp et que les femmes prennent la parole, notamment pour Weinstein, pour Jeffrey Epstein, je trouve ça formidable, et pour moi, ce n'est pas un recul, au contraire, c'est une avancée. Et j'espère que la justice permettra que ça n'arrive plus et qu'on puisse s'exprimer uniquement dans les magistrats.
Oui, mais en même temps, je sais pas, c'est une question de centration.
Liliane Cordel.
Prenez Girard. Girard, il a fait son boulot. Chaque fois qu'il a pu, il a invité tout ce qui avait un nom dans la culture en France, y compris Gabriel Matzneff. Je veux bien qu'il y ait, qu'on manifeste et qu'on se plaigne de sa présence, mais en effet, ça ne se passe peut-être pas par manifestation. Et je voudrais dire autre chose, c'est que tout de même, parlons de pédocriminalité. Il y a tous les soirs des dizaines de pédocriminels qui franchissent le périph et qui vont se servir de services sexuels de jeunes femmes de 15 ans, de 16 ans,
bien
de
sûr.
14 ans, de
mais
12
l'un des
ans,
n'empêche pas
nigériane
l'autre.
Ou non. Je veux dire, le pédoland, il n'est pas forcément sur la place de l'hôtel de ville.
Il n'est peut-être pas que là. Vous avez raison, il n'est peut-être pas que là. Et je ne sais pas.
Non, mais j'aimerais bien, mais si vous voulez, qu'on dise aussi que voilà, il y a ça,
mais
et
bien
que
sûr.
Les féministes s'occupent aussi de
mais
ça.
Mais bien sûr, mais l'un des combats n'empêche pas l'autre. C'est pas exclusif. Et là, Girard, je crois que ce qui est reproché et ce qui fait que la justice se saisit, c'est pas d'un déjeuner avec Matzneff. Je pense que le procureur n'en a rien à faire. Je pense que le problème, d'ailleurs, il l'avait interrogé comme témoin. Le problème, c'est plutôt la plainte qui vient d'être déposée là par ce jeune homme qui dénonce avoir été victime de viol durant son. Oui, oui, mais peut-être qu'il y avait des choses qui étaient sues, comme il y avait des choses qui étaient sues pour d'autres. Peut-être. En tous les cas, elles se sont pas trompées.
Arrêtons-nous sur l'affaire Girard, si vous voulez bien, qui n'est pas au cœur du
bien
débat ce soir, et surtout que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais malgré tout, elle révèle, et elle a révélé Bibia Pavard, elle a révélé une forme, là aussi, d'opposition, comme je le disais tout à l'heure, entre une approche morale, éthique, le droit, enfin voilà, c'est vrai que ce sont des thèmes, certains reprochent aux féministes d'une évolution morale, la philosophe Camille Froidmétry, elle préfère parler d'éthique, justement. Michel Perrault, l'historienne très importante sur l'histoire du féminisme, dans une interview de Libération, rappelait qu'il y a une ligne assez fine, finalement, entre le droit, l'éthique et la morale.
Effectivement, ce que cela souligne, c'est à la fois les débats, parce qu'on est dans un moment de réflexion intense et qui va effectivement aboutir à quelque chose, à mon avis, de nouveau, à la fois dans la loi et dans aussi dans la philosophie. Mais ce que l'on voit avec le recul de l'histoire, c'est que les mobilisations féministes se sont toujours emparées de ces questions de justice, de droit, et qu'il y a toujours une dimension morale. Moi, ça me fait penser à ces débats. Qui se tiennent au début de la Troisième République au sujet de l'impunité de ces maris qui tuent leur épouse adultère. Et donc il y a toute une réflexion dans la presse féministe, dans les discours féministes sur le caractère scandaleux de cette impunité et sur ce que l'on couvre comme des crimes passionnels à ce moment-là. et la volonté de donc punir ces maris assassins. Et donc on voit aujourd'hui avec le recul que ça nous paraît tout à fait justifié, que c'est moralement justifié. Donc on est aussi sur ce domaine de la morale, de l'éthique, du droit. Et donc ces questions de justice, elles ont toujours été au cœur des mobilisations féministes qui visent justement à montrer ce qui, dans la société, dans la loi, est injuste, parce que ça perpétue un système d'inégalité entre les hommes et les femmes.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
On n'a jamais non plus appris aux filles à se défendre. Là, on se dit, bon, on peut éduquer les garçons, on peut... Mais en fait, le jour où les mecs auront peur de se faire déchiqueter la bite à coup de cutter, peut-être que subitement, ils comprendront beaucoup mieux ce que nous, on veut dire, quoi. Cette phrase de King Kong Theory, on pensait toujours ça?
Ah ben j'en suis sûr. Je suis pas sûr que ce soit la seule solution, mais je suis sûr et certaine que s'ils prennent des trempes régulièrement, ils apprendront la prudence. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'ils font pas, aussi impulsifs soient-ils, aussi régis par les hormones soient-ils, il y a plein de choses qu'ils arrivent très bien de pas faire. Hein. C'est pas qu'on nous a pas appris à pas nous défendre, c'est qu'on nous a appris à être toujours vulnérables. On nous a appris à avoir peur. Avoir peur sans rien faire, à considérer qu'avoir peur dans l'espace public c'était normal, avoir peur au travail c'était normal, avoir peur idéalement, il faudrait ne pas avoir à répondre à l'agression aussi souvent. On doit pouvoir largement soulager parce que nous on peut pas passer notre vie à savoir comment se défendre ou comment zigzaguer ou comment aller plus vite, ou comment tuer des mecs ou parce que c'est un problème de tuer un mec. Même pour moi qui suis radical, je me dis on peut pas non plus tuer des gens tous les jours, c'est vrai que c'est pas... Ou alors ça, on passe vraiment dans un système de société totalement différent, on va les abattre tous. Donc il faut solutionner le problème à un autre niveau que nous, comment on se défend.
Qui a peur des radicalités féministes? C'est le sujet ce soir de ce premier épisode, j'allais dire, du temps du débat du samedi, avec trois invités, la sociologue et militante féministe Liliane Candel, l'historienne Bibia Pavard et l'avocate pénaliste porte-parole de la Fondation des Femmes, Zoé Royau. On vient d'entendre l'écrivaine Virginie Despentes, c'était dans une émission, un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, et qui est un podcast dans lequel justement il y a une parole radicale, féministe qui s'exprime. Évidemment, si on fait entendre ce soir Virginie Despentes, c'est aussi en référence non seulement à son essai King Kong Theory, mais aussi à cet article qu'elle a pu écrire dans Libération à la suite de la dernière cérémonie des Césars, On se lève, on se casse, pour illustrer cette nouvelle forme de prise de parole dans l'espace public. Ou d'ailleurs, faut-il vraiment parler de nouvelles formes de parole, Liliane Candel, dans l'espace public, cette approche que vous venez d'entendre de Virginie Despentes? Est-ce que ça vous paraît propre à l'époque, justement, à cette époque qui appelle à une nouvelle forme de féminisme, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est plus ancien que cela?
Non, j'ai l'impression que c'est très exactement, et même beaucoup moins d'ailleurs, que ce qu'on pouvait dire dans les années 70. Si vous lisez le Scrum Manifesto de Valérie Solanas, il allait encore beaucoup plus loin que ça. Sauf qu'à l'époque, c'était des paroles. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que précisément, bon, d'abord, on reste dans le premier degré en permanence, et qu'à force de fustiger ce qui se passe ici, regardez, il y a dans le Figaro aujourd'hui l'histoire d'un père qui, à Téhéran, a décapité sa fille parce que, pour une histoire de crime d'honneur, enfin, elle voulait se marier avec un homme, il n'était pas d'accord. Et ce qui me gêne beaucoup, beaucoup, dans le discours des jeunes féministes radicales aujourd'hui, c'est qu'elles mettent totalement, à travers la notion de patriarcat, qui est à peu près aussi englobante que celle de capitalisme, mais il y a quand même des patriarcats, elles mettent tout sur le même niveau. Elles oublient qu'il y a des pays où nous pouvons, c'est largement insuffisant, mais une femme violée a le droit de porter plainte, elle a le droit d'être protégée, et qu'il y en a d'autres, une femme violée est en plus sanctionnée et lapidée. Et que c'est la différence entre les états de droit et les états totalitaires. Et je regrette beaucoup que ça... Nous, on était encore marqués par le problème du totalitarisme à l'époque. Je ne suis pas sûre que ça soit très présent dans la tête des jeunes féministes.
Eh bien, Pavard.
Je répondrai que finalement c'est difficile de dire les jeunes féministes parce qu'il y a une grande diversité de formes de mobilisation. Il ne faut pas oublier que il y a donc celles dont on parle beaucoup dans les médias, mais il y a aussi toutes celles qui sont engagées sur le terrain, dans les quartiers populaires. Il y a celles qui s'engagent aussi dans des combats pour les pays où justement les femmes n'ont pas les mêmes libertés qu'ici. Donc pour moi, il y a vraiment une diversité, et ce renouveau générationnel finalement il est aussi marqué par cette volonté d'un combat qui ne soit pas simplement ancré en France, mais qui ait une dimension mondiale. Si on prend par exemple le terme de féminicide, c'est très intéressant parce que c'est un terme qui a beaucoup circulé, qui a été forgé autour du mot homicide pour en faire le pendant féminin, mais qui s'est transformé en étant pris en charge par les féministes d'Amérique du Sud. Il a vraiment servi à combattre les violences extrêmes contre les femmes dans différents pays, au Mexique, en Argentine. Et puis il circule aujourd'hui dans les pays, par exemple en France. Et donc on voit que ces formes de circulation qui visent effectivement à agir sur un système, mais évidemment je pense qu'il y a quand même la conscience qu'il y a des différences importantes entre les pays démocratiques et les pays non démocratiques.
Et rappelons qu'en 2019, le nombre de féminicides a augmenté de 21% en France. Est-ce qu'un mot comme celui-ci, Zoé Royaux, vous qui êtes avocate, il a une fonction pour vous importante pour faire avancer les droits? Est-ce qu'il a eu un rôle, un rôle de prise de conscience
Les médias s'en sont emparés. Ce qui est important, c'est de mettre des choses sur des phénomènes qui existent. Donc effectivement, c'est vrai que la situation est pire en Iran et peut-être aussi en Inde, mais il y a quand même l'année dernière 149 hommes qui ont tué leurs femmes parce qu'elles voulaient les quitter. Donc il faut pas. C'est important de se dire, en France, les femmes ont le droit de déposer plainte, le viol est sanctionné, on a le droit d'avorter, bien sûr. Et c'est grâce à vous et à ces militantes qui se sont battues avec humour, avec fougue, avec témérité. Mais pour autant, aujourd'hui, la situation n'est pas réglée pour les femmes et les femmes qui sont victimes de viol. On a encore des PV de police avec des questions qui sont lamentables. Et on demande encore à des femmes qu'est-ce qu'elles faisaient dans la rue à 3h du matin, pourquoi elles portaient une mini-jupe, pourquoi elles abusent de l'alcool. Et il y a encore aujourd'hui des magistrats qui considèrent qu'une femme ne peut pas dueller par son mari parce que c'est son mari et qu'elle a dit oui il y a 30 ans devant l'hôtel. Donc il y a quand même des sujets encore de résistance des mentalités. Alors oui, le terme féminicide est important, mais il est important à partir du moment où on peut le régler. Et vous avez compris aujourd'hui que ce n'est pas mesuré par le ministère, c'est mesuré par une association, un collectif, qui de manière artisanale lit la presse chaque jour pour dénombrer ce nombre de femmes. Pour comprendre un phénomène et pour pouvoir le traiter et pour pouvoir y répondre, il faut pouvoir aussi le mesurer en temps et en heure. Et là, encore une fois, le ministère ne se donne pas les moyens de... Vous avez vu le Grenelle des violences conjugales, on s'est tous réunis, etc. En réalité, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de budget, un manque de moyens financiers, un manque de moyens humains pour répondre aux problèmes que sont les féminicides, les agressions sexuelles, les viols. Et on se rend compte qu'on ne donne pas suffisamment de moyens aujourd'hui aux femmes et à la justice pour pouvoir répondre efficacement à ce phénomène-là.
Donc les médias s'en sont emparés, mais rappelons que le nombre de féminicides est d'abord relayé dans la rue par des mouvements, des nouvelles formes de prise de parole dans l'espace public, par les colleuses par exemple, qui viennent coller régulièrement. Exactement. Où on en est, si je peux m'exprimer ainsi,
et
dans le nombre de féminicides.
Qui s'empare de l'espace public, qui est encore un espace dangereux pour les femmes aussi, donc c'est pour ça qu'elles s'en emparent, avec des lettres qui sont écrites en noir, c'est pas rien, et qu'elles dénoncent effectivement des situations, et que tout le monde est contre. Enfin, si vous demandez aux gens s'ils sont pour qu'un mari tue sa femme, tout le monde vous dira non. La question, c'est comment on le règle une fois qu'on est d'accord, en fait. Comment on fait pour que ce chiffre baisse réellement? Alors effectivement, il y a une situation en Iran, il y a une situation en Inde, aux États-Unis, partout, bien sûr. Et puis il y a aussi l'Espagne. On peut regarder aussi l'Espagne, qui est un pays qui est très en avance par rapport à la France sur le système judiciaire et la façon dont on répond et on protège les femmes, la façon dont on les protège.
Liliane Candel, ce terme de féminicide, il vous semble utile, approprié
Moi, je ne suis pas... Je n'étais pas très chaude bon, maintenant, il est passé. Je trouve qu'il évoque un tout petit peu trop génocide. Et génocide plus exactement. Et j'ai toujours été assez réservée par celle de mes camarades de l'époque, ou encore aujourd'hui, qui parlent de génocide, comme s'il y avait une volonté délibérée d'éradiquer le genre féminin. Ce n'est pas tout à fait le cas, enfin les maltraitances sont suffisamment importantes et gravissimes et intolérables pour Mais bon, le mot est passé. Par contre, oui, vous dites la justice n'est pas suffisante. Je pense que le travail des colleuses est absolument, réellement, là, je pense, extrêmement important.
Bien sûr.
Parce que il fait passer aussi dans les mentalités.
Ouais.
Et dans tous les gens qui passent dans la rue et qui voient ces grandes affiches, l'idée que, oui, il y a des féminicides et que ce n'est pas supportable. Je veux dire, voilà, il y a une espèce de complémentarité entre la mobilisation de rue, là, et que ça peut donner au niveau judiciaire.
C'est vrai.
Zoé Royaux.
Et je voulais juste aussi réagir à ce qu'a dit Virginie Despentes dans l'extrait que vous nous avez fait écouter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, on la connaît pour son discours qui parfois est violent et très, très radical. Et ce qu'elle dit aussi dans King Kong Theory, c'est que lorsqu'elle a été elle-même victime de viol, ce qui l'a sidérée, c'est qu'elle n'a pas réussi à bouger. C'est-à-dire qu'entre le discours qu'on peut avoir là autour d'une table, parce qu'on est toutes d'accord pour dire que, et tout d'un coup, quand on est confronté, donc les femmes ne sont pas des victimes par nature, elles ne victimisent pas. C'est juste quand on est confronté à la violence d'un viol, qui parfois même se passe sans violence physique, on se rend compte que tout d'un coup, la sidération fait qu'on n'arrive pas forcément à réagir, et c'est le cas de Virginie Despentes. Et aujourd'hui encore, elle ne comprend pas, elle interroge encore ça. Et il y a aussi autre chose, elle a raison. On a appris aux femmes, et ma génération et celle d'avant aussi, à avoir peur, à faire attention, à être vigilante, à ne pas rentrer seule, à regarder derrière elle s'il y avait des pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'on prend le métro ou pas, à être vigilante. Et le pendant de ça, c'est qu'on a aussi expliqué aux hommes qu'ils avaient des pulsions sexuelles. Oui, les hommes ont plus de besoins que les femmes, c'est pour ça qu'il leur faut des prostituées. Les hommes, oui, ont des pulsions sexuelles, c'est pour ça qu'ils violent. Alors qu'en réalité, ça n'a été prouvé nulle part biologiquement que les hommes avaient plus d'envie que les femmes, et que nécessairement ça pouvait expliquer. Donc en fait, le conditionnement pour nous d'avoir peur et d'être des victimes, le conditionnement, c'est de dire aux hommes, vous êtes des auteurs en puissance, mais pauvres. C'est une façon aussi de les excuser de ces pulsions-là, et il y a beaucoup de choses qui se nourrissent derrière ça, et c'est aussi un problème aujourd'hui.
Mais bien Pavard, on le disait, la cause féministe avance aussi avec des mots, des concepts. Le mot de féminicide, on vient d'en parler. Un autre concept qui est important dans votre ouvrage, hein, Ne nous libérez pas, on s'en charge, c'est celui d'intersectionnalité. Alors, c'est une évolution récente, c'est l'idée selon laquelle le combat féministe ne peut pas exclure ou en tout cas s'affranchir des autres formes de combat contre d'autres formes de domination, qu'elles soient raciales ou de classe. Alors, je ne sais pas si c'est très différent, là, encore une fois, de ce que proposait le MLF à l'époque, vous nous le direz, Liliane Candel, mais qu'est-ce que ça a apporté, cette approche intersectionnelle, cette évolution du féminisme, qu'on appelle encore une fois le néo-féminisme?
Alors, il faut, à mon avis, distinguer l'intersectionnalité comme concept théorique qui a été forgé par Kimberly Crenshaw, qui est juriste d'ailleurs, dans les années 90, et qui essayait de comprendre comment certaines femmes pouvaient ne pas être représentées ni par les dominants d'un point de vue racial, ni par les dominants d'un point de vue du genre. Donc il y a toute une réflexion autour de ça, et que l'on a voulu poursuivre aussi en se saisissant de ce concept pour essayer de voir comment s'articulent les dominations, mais aussi comment on peut distinguer entre les femmes des classes populaires, les femmes des classes supérieures, quelle est la place des femmes racisées dans l'histoire. Comment parfois il peut y avoir des confrontations entre les mobilisations antiracistes et les mobilisations féministes à travers le temps, les questions coloniales, postcoloniales. Donc on a voulu aussi s'emparer de ces questions très présentes pour essayer de relire l'histoire et de redécouvrir des récits qui étaient parfois figés. Donc il y a cette dimension théorique, comme je le disais, mais il y a aussi aujourd'hui, ce qui est intéressant, une appropriation de ce terme d'intersectionnalité par des féministes, des jeunes féministes qui se disent intersectionnelles. C'est devenu un adjectif et c'est donc devenu un positionnement aussi politique au sein de l'ensemble des positionnements féministes actuels. On a dit tout à l'heure universaliste par exemple, quoi d'autre, essentialiste, matérialiste, etc. Donc c'est aussi une volonté de s'affirmer en tant que femme subissant plusieurs types de domination, alors liées à leur sexualité, liées à leurs origines, liées à leurs origines sociales, à leurs origines géographiques, à leur racisation, en fait, qu'elles sont perçues d'une certaine manière dans la société, et donc la volonté aussi de pouvoir donner des voix multiples ces mobilisations féministes aujourd'hui.
Liane Candel, sur cette adjectivation.
J'ai envie de rappeler que le féminisme a toujours été intersectionnelle, si je peux dire. Une des principales tendances du mouvement de libération des femmes, qui était la tendance dite lutte des classes, avait comme emblème pas de libération des femmes sans révolution. Moi, j'ai fait partie pendant plus de 10 ans d'un séminaire à Paris 7, dirigé par Rita Talman, qui s'appelait « Sexe et race, discours et formes d'exclusion dans l'Europe ». Je veux dire, on n'a jamais oublié qu'on n'est pas... On n'est pas seulement femme et on ne devient pas seulement femme. Mmh. Et moi, je l'avais écrit beaucoup. Donc, alors, ce qui est certain, c'est que suivant les périodes historiques, il était important et stratégique, et je pense qu'on peut le revendiquer, moi je le revendique, de mettre l'accent plutôt sur tel aspect de l'oppression plutôt que sur tel autre. Il y a eu un moment, dans les années 70, où, en effet, il était fondamental de faire passer l'idée que les femmes, à l'instar des autres opprimés, puisqu'il n'y a que de cela qu'on parlait, aux États-Unis, on parlait évidemment surtout du racisme anti-noir, en France, on parlait surtout de la condition ouvrière, et pendant quelques années, il a été fondamental que les femmes disent « Attendez, il y a aussi les femmes. » Et pas seulement « il y a aussi », et qu'on ne parle que de ça. Et moi, je revendique effectivement tous les excès qu'il y a eu à l'époque, parce qu'il fallait être dans la provocation, de même que je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut être dans la provocation. Je me demande si de temps en temps, ce que je vois est vu comme provocation par ces actrices. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, on
est
dans autre chose.
Il y a une approche un peu premier degré aujourd'hui du militantisme féministe.
Je ne vois malheureusement pas beaucoup de deuxième degré. Je le regrette terriblement. Enfin, pensez à l'efficacité des slogans des années 70.
Ça, c'est vrai, ils sont formidables.
Ouais, mais les slogans actuels qu'on a vus dans les dernières manifestations, par exemple,
étaient très bien aussi.
C'était très drôle. Il y a aussi
une
continuité de cette recherche de déstabilisation par l'humour, à mon avis.
C'est juste qu'à l'époque, c'était plus innovant parce que c'était très, très nouveau et que les femmes ne s'étaient pas emparées de cet outil qui était l'humour de manière publique. Mais aujourd'hui,
il y a quand même, pas seulement chez les femmes, il y a un sérieux dans les débats. Qui est navrant par moment.
Mais non, regardez, on s'amuse là.
On s'amuse. Justement, puisqu'on parle de continuité, je propose d'écouter l'hymne des femmes. C'était en 2019, dans un stade, à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football. Très sérieux, Divya Pavard, à propos de cet hymne des femmes, cet hymne composé à la fin des années 70 sur une musique déjà existante, existante et qui était donc là chantée dans un espace normalement, ou en tout cas normalement c'est pas le bon terme, ou traditionnellement, voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire, on ne voyait pas beaucoup les femmes, qui est celui d'un stade de football. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette première émission du temps du débat du samedi. Divya Pavard, je rappelle, avec Florence Rochefort, Michel Zancarini, Fournel, Ne nous libérez pas, on s'en charge, aux éditions La Découverte. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question santé, sécurité, liberté, où est la priorité? Mais avant cela, le prochain rendez-vous d'un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, L'Esprit Public sur France Culture pour cette première émission de la saison. Émilie Aubry s'intéressera à deux sujets. Quelle formule pour éviter le marasme économique? Et du Mali au Liban, la France est-elle encore attendue? Merci beaucoup à Anna Holweck pour la réalisation. À la prise de son ce soir, c'était Manon Houssin. Et merci à Seam Boutata pour sa collaboration.